France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT's in the house.
Radio Rosana Piperis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Et ce soir, nous allons à Belém prendre des nouvelles de la COP30 qui a été évacuée pour cause d'incendie. Mais notre invité est là, on va vous raconter quand même ce qui s'est passé. Et sinon, Lula voulait que cette première COP d'Amazonie soit un succès puisqu'elle continue évidemment. Est-ce qu'on en prend le chemin? C'est ce qu'on verra ensemble. Où mène ce nouveau plan de paix sur l'Ukraine qu'on vient de voir apparaître du côté de la Russie? C'est le monde à l'endroit de Louise Baudet. Le reportage ce soir est au Sénégal où, poussé par TikTok et des influenceuses, des jeunes filles font des opérations de chirurgie esthétique qui parfois tournent mal.
Une patiente qui m'a montré une vidéo d'un saignement qu'elle a eu dans l'avion. Tu envoies des choses et tu te poses la question si réellement cette personne c'est un chirurgien plasticien qu'il fait.
Un reportage à découvrir autour de 18h42 sous les radars. Guillaume Audat a trouvé le Royaume-Uni espionné par la Chine via LinkedIn avec Stéphane Jourdain dans la Tech la première. Vous verrez que les IA ne savent pas lire l'heure. Ça devrait les rendre modestes. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
C'est avec vous qu'on va commencer. Vous êtes notre envoyé spécial à Belém. Je voudrais d'abord, avant qu'on rejoigne notre invité, que vous nous racontiez ce qui s'est passé, ce qui se passe d'ailleurs à la COP30. Un début d'incendie, une évacuation. Vous avez été évacuée, Sandy, non ?
Oui, et puis l'évacuation se poursuit. Mm-hmm. Les gens sont en train de sortir tranquillement du bâtiment. Les sirènes, voilà, la sirène a retenti il y a environ une dizaine de minutes. Les agents de sécurité sont rentrés dans le centre des médias, là où il y a des centaines de journalistes, en criant qu'il fallait sortir. Donc tout le monde est sorti. Et désormais, bah, écoutez, il y a des images qui circulent un petit peu. On voit en effet sur ces images un départ de feu sur l'un des pavillons dans cette zone bleue. Des gens qui courent avec des extincteurs. Il y a d'autres témoins qui nous disent qu'il y a beaucoup de fumée. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que la COP, bah, c'est un bâtiment, c'est grand comme des terminaux d'aéroport pratiquement. Mmh. Hein, donc ça se passe de l'autre côté. Mais en tout cas, là où je suis, les gens sont réunis dans le calme. Tout le monde est en train de sortir tranquillement.
Alors on a perdu notre invité forcément hein, dans la bousculade. Vous êtes avec Olivia Branger, qu'on salue aussi, qui est là pour les moyens techniques. Mais c'est ça qui est formidable, on peut la retrouver grâce à WhatsApp. Bonsoir Fanny Petitbon.
Oui, bonsoir Fabienne.
Est-ce que vous nous entendez bien ?
Je vous entends bien, oui, je suis à l'extérieur du bâtiment.
Eh ben voilà, c'est parfait, comme tout le monde. Donc votre ONG, Fanny Petitbon, s'appelle 350.org. C'est à ce titre que vous êtes aux premières loges à la COP. Vous êtes observatrice des négociations. Et c'est votre 9e COP, Fanny Petitbon. Donc à vous, on ne la fait pas. Est-ce qu'on est dans les temps ? Est-ce que vous pouvez nous dire oui, il y aura un texte, il aura du sens ? Où est-ce qu'on en est, en fait ?
Là, on est vraiment rentré dans le dur de la COP. Là, les ministres sont arrivés en début de semaine, hein, puisque en gros, les négociateurs techniques en général rendent leur copie à la fin de la première semaine et on laisse les sujets épineux, notamment tout ce qui est autour de la sortie des énergies fossiles, les financements, la transition juste, aux ministres pour trouver des terrains d'entente. Mais c'est aussi les moments où en fait, on a vraiment les lignes rouges qui se dessinent, des coups de pression, des marchandages. Et le vrai risque, en fait, c'est que les gouvernements, ils oublient que voilà, derrière ces mots, derrière ces virgules, il y a vraiment des vies humaines. Donc là, en fait, on a eu un projet de déclaration finale de la COP il y a 2 jours. Depuis, c'est un peu le silence radio. Ce projet de déclaration, il est quand même franchement pas du tout à la hauteur de ce dont on a besoin pour répondre à l'urgence. Ça avait des options très, très contradictoires. Donc là, on est dans l'attente, en fait, depuis hier. Il devrait y avoir une nouvelle version du texte qui arrive. Et là, l'enjeu, c'est vraiment de s'assurer que c'est un texte qui va montrer qu'on accélère la mise en œuvre de l'accord de Paris, qui pour l'instant fonctionne, mais beaucoup trop lentement. Lula est revenu mettre un coup de pression hier, et le secrétaire général des Nations Unies aussi.
On l'a entendu mettre un coup de pression, il faut montrer, nous, la société, que nous voulons sortir de la dépendance aux fossiles, c'est ce qu'il a dit en arrivant dans son coup de pression, et c'est vrai que sortir des énergies fossiles, Fanny Petitbon, on a l'impression que c'est le serpent de mer de toutes les dernières COP, évoqué à chaque fois, mais jamais réellement inscrit dans le marbre. Ce qu'on a réussi à faire au mieux, et c'était à Bakou, c'est une transition hors des énergies fossiles, mais sans fixer ni le temps, ni le comment, et ni le camp. Cette fois-ci, est-ce qu'il faudra lire des obligations ? Est-ce qu'une COP réussie, c'est cette phrase-là, avec une vraie sortie des énergies fossiles ?
Alors non, une COP réussie, ce ne sera pas juste ça. Mais sur la sortie des fossiles, l'engagement, il a été pris à Dubaï il y a 2 ans, donc de sortir du pétrole, du gaz, du charbon, effectivement, comme vous disiez, sans aucune clarté. Donc, dans ce paquet dont on a besoin pour la justice climatique, on a besoin d'un engagement des États à produire une feuille de route de sortie qui va dire, en gros, qui va différencier qui doit sortir en premier.
Ouais, il vous faut le quand, le comment, en fait. Il faut ce qui manquait avant, il vous faut le quand, le comment.
Ouais. Mais il faut être honnête, on l'aura pas à cette COP. Cette COP, elle va donner le mandat, en fait, de lancer cette feuille de route. Mais déjà, ça la rendra concrète. La deuxième chose, c'est que cette transition hors des énergies fossiles, elle se fasse de manière juste. C'est-à-dire pas au détriment des travailleurs, des travailleuses, par exemple, qui sont dans le secteur des énergies fossiles et qui ont besoin d'être reconvertis, notamment pour travailler dans des emplois verts, mais aussi qui doit pas se faire au détriment des peuples autochtones, qui, sur leur territoire, ont des minerais critiques, par exemple, comme le lithium, pour produire les énergies renouvelables. Et donc, en gros, il faudrait pas qu'on aille vers un colonialisme vert, quoi. C'est-à-dire qu'on fait une transition énergétique à n'importe quel prix. Et puis, le troisième élément très important, c'est bien sûr la question des financements, et notamment des financements publics. L'année dernière, ça a été une douche froide. Les pays du Sud ont obtenu à peine un quart de ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire 300 milliards sur 1300 milliards. Et là, ils demandent à corps et à cri des financements pour l'adaptation au changement climatique, parce qu'ils font déjà face à beaucoup d'impacts.
On va y venir à ça, effectivement, Fanny Petitbon, parce que la question que je me pose aussi bien sur les énergies fossiles que sur le reste, au fond, sur la déforestation, etc., les pays bloqueurs, est-ce qu'on se dit que c'est toujours les mêmes, les pays bloqueurs, ou est-ce que vous sentez là que quelque chose à bouger, en positif ou en négatif?
Alors, on ne va pas se mentir, hein, les pays, notamment du groupe arabe, les gros producteurs de pétrole, ils ont à cœur de toujours défendre leurs intérêts économiques. Et ils sont, bien entendu, soutenus par les lobbies des énergies fossiles, hein, qui sont venus en nombre. Ils sont quand même 1600 cette année à la COP. Hein, c'est la deuxième plus grosse délégation. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, donc, les États-Unis ne sont pas venus. Enfin, en tout cas, l'administration américaine n'est pas venue. Mais qu'en revanche, on a vu l'Union européenne, qui d'habitude est plutôt le bloc qui aide à trouver des terrains d'entente entre d'un côté l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Japon et puis de l'autre les pays du Sud, et ben là, elle s'est davantage durcie. Notamment, il y a eu des menaces, du chantage ce matin par certains ministres européens disant qu'ils étaient prêts à partir d'ici sans accord s'il n'y avait pas plus d'ambition sur le volet de réduction des émissions. Ce qui est absolument hypocrite d'entendre ça, parce que demander à des pays du Sud d'être plus ambitieux alors qu'ils n'ont pas les moyens d'effectuer cette transition, c'est hypocrite. Donc, on a vraiment besoin que les pays du Nord aussi soient prêts à débloquer de l'argent, soient prêts à aller le chercher, arrête de dire que les caisses sont vides. Ils peuvent le faire notamment en allant taxer les entreprises fossiles, les ultra-riches, en mettant fin aux subventions aux entreprises fossiles. Donc voilà, on essaye aussi de braquer la responsabilité des États historiquement émetteurs.
Fanny Petitbon, vous restez avec nous. Je voudrais me tourner vers vous à nouveau, Sandy Dauphin, parce que ce que dit Fanny Petitbon, ça nous intéresse sur le fait que l'Europe n'est pas en train de devenir le mauvais élève. Mais enfin, quand même, on sent bien, disons que ça manque un peu d'allant. Vous nous avez déjà raconté qu'ils arrivaient en disant « Mais attendez, nous, on a les poches vides. » Il paraît même que l'Europe a reçu le prix fossile. Et le prix fossile, Sandy Dauphin, c'est pas une récompense, hein.
Oui, les ONG ont décerné un beau d'éthane à l'Europe. Elle est critiquée pour son manque de générosité. Fanny en a parlé, les pays en développement demandent aux pays riches de tripler l'aide à l'adaptation et pour éviter donc les dommages causés par le dérèglement. Mais l'Union européenne a dit stop, on a déjà fait beaucoup. Allez donc demander à la Chine et aux grands pays émergents comme le Brésil. Après, attention, il faut se méfier, il y a beaucoup de postures dans les dernières heures de négociation. Un refus catégorique un jour, ça peut se transformer en compromis le lendemain. Mais les ONG remarquent aussi quand même et accusent l'Europe d'avoir un double discours, parce qu'en pleine COP de l'Amazonie, pendant ce temps à Bruxelles, la Commission propose de repousser d'un an l'entrée en vigueur de sa loi pour lutter contre la déforestation importée, pour éviter que le cacao, le soja ou le bois ne proviennent de forêts déboisées de l'autre bout du monde.
Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on est passé dans le camp des bloqueurs, ou c'est aller trop loin que de dire ça ?
Alors quand même pas, non. L'Union européenne est arrivée à cette COP avec la promesse de baisser de 90% ses émissions de gaz à effet de serre en 2040 par rapport à 1990, malgré ses divisions internes. Elle fait aussi partie des 80 pays qui veulent qu'on parle de l'éléphant dans la pièce qu'on fait mine de ne pas voir aux COP, c'est-à-dire des combustibles fossiles. Mais c'est vrai que cette année, l'Europe est un peu plus en retrait. Elle dit, vous l'avez rappelé, on fait beaucoup d'efforts, on aimerait que les autres s'y mettent un peu plus, et de rappeler que 70 pays quand même, sur 190, n'ont pas rendu leur nouveau plan climat prévu par l'accord de Paris, et parmi eux de gros pollueurs comme l'Inde et l'Arabie Saoudite.
Et merci beaucoup, Sandy Dauphin. Vous reviendrez après pour nous donner des nouvelles peut-être de cet incendie et de cette évacuation. Fanny Petitbon, si l'Europe n'est plus moteur, en tout cas plus autant moteur qu'elle l'était, est-ce qu'on peut dire qui est moteur ? Est-ce qu'il y a un moteur ou pas ?
Il y en a différents des moteurs, mais moi celui que je retiens le plus de manière de la plus frappante pour moi, c'est les petits États insulaires, les États du Pacifique, qui en fait vraiment prennent le leadership, hein, parce que la question de rester sous 1,5 degré pour ces pays-là, c'est littéralement une question de survie. Et c'est pas un hasard si c'est l'envoyé spécial des îles Marshall qui a pris la parole au nom de toute cette coalition des 80 pays, donc qui souhaitent une feuille de route des énergies fossiles, qui donc menait la danse. Et c'est d'ailleurs ce continent, les États du Pacifique, qui veulent être le premier groupe de pays à être complètement sorti des énergies fossiles.
Une question ou deux encore, Fanny Petitbon. Vous l'avez à peine évoqué, mais les Américains effectivement ne sont pas là. Quand ils ne sont pas là, est-ce que leur absence crée un vide ou est-ce qu'au contraire on a supprimé un bloqueur?
Oui, clairement, ça supprime un bloqueur. Ça c'est plutôt bienvenu. Après, je veux pas parler trop vite parce que on a aussi peur que finalement la montée en puissance du sujet des énergies fossiles, qui n'était pas vraiment censé être traité à cette COP, les réveille au dernier moment. Donc, je veux pas vendre la peau de l'ours, honnêtement. Mais comme je le disais auparavant, ça a fait que du coup, on a vu quand même une mise en retrait ou en tout cas une position plus dure de la part de l'Union européenne. Donc ça, c'est un petit peu dommage finalement qu'ils aient... Bien sûr, ils ne sont pas au niveau des États-Unis, mais ils ont quand même bloqué notamment sur la question des financements. Donc on va voir comment ça se passe dans les dernières heures. Mais juste, ça a libéré quand même un espace.
Mais est-ce justement, et vous le dites, hein, le bas blesse sur le financement. Vous avez rappelé qu'à Bakou, l'année dernière, la promesse avait été beaucoup moins importante que ce qui était attendu. Est-ce qu'on risque de se retrouver au sortir de cette COP avec une COP où, au fond, on n'aura rien promis financièrement? On ne peut plus rien promettre financièrement. Est-ce que ça en fait une COP pour rien, quasiment? Est-ce que ça en fait quelque chose d'assez gazeux?
C'est sûr que s'il n'y a pas d'engagement à aller des 300 milliards aux 1300 milliards, donc ce qui était promis à Bakou, mais sans vraiment de clarté, et en particulier en fait sur l'adaptation, c'est vraiment l'un des sujets qui fait qu'on saura si cette COP est un succès ou non. Ce serait une trahison, parce qu'il faut le savoir, le sujet des financements, il est sous-jacent dans l'ensemble des salles de négociation. Les pays du Nord pensaient que ça avait été bouclé l'année dernière, mais les pays du Sud l'ont vraiment pris comme une gifle, parce que voilà, ils ont obtenu que une toute petite partie de ce qu'ils demandaient, et surtout, ce qu'ils voient, c'est que les pays du Nord disent nous, on va mettre le minimum et on va compter sur le secteur privé pour faire le reste. Sauf que le levier de financement du secteur privé, c'est un leurre. Ça ne marche pas, que ce soit pour l'atténuation ou pour l'adaptation. Donc, on a vraiment besoin que les gouvernements mettent la main au portefeuille. Et malheureusement, on a eu très peu d'engagements, très peu de pays qui sont venus annoncer des engagements financiers, y compris la France. Le président Macron est arrivé quand même ici les mains vides. Donc, il faut quand même qu'on ait au moins ce triplement sur l'adaptation.
C'est ça, je vous entends, Fanny Petitbon, et ce sera ma dernière question. J'ai l'impression qu'on a presque fait le deuil d'une COP qui compte, c'est-à-dire celle où on dira il y a eu la COP 30, elle est partie sur la COP des peuples, on a vu les peuples amazoniens qui étaient là, c'est la première COP d'Amazonie, et à la fin, est-ce que ce sera vraiment une COP qui compte? Est-ce qu'on le retiendra, ce numéro?
C'est encore possible, en fait. On lâche rien jusqu'au bout. Si on arrive à avoir un paquet entre sortie des énergies fossiles, transition juste et des éléments quand même sur le financement de l'adaptation, on pourra y arriver. On a vu qu'il y a des pays qui commencent à bouger sur certaines lignes. Donc, cette COP des peuples, on va se battre. Le peuple a repris le pouvoir après 3 ans de COP dans des pétro-États. Les peuples autochtones, la société civile a pu reprendre cet espace d'expression. Et jusqu'au bout, on lâche rien. On montre que le monde a les yeux braqués sur Belém.
On vous a entendu, Fanny Petitbon, votre ONG s'appelle 350.org. Merci beaucoup. On reviendra évidemment à la COP tout à l'heure au journal de 19h et évidemment à cet incendie qui a l'air d'être un incendie relativement important quand même, qui a nécessité l'évacuation d'une très très grosse partie, si ce n'est l'intégralité du bâtiment de la COP. À tout à l'heure donc. La suite dans Un jour dans le monde, c'est vous, Louise Baudet, c'est le monde à l'endroit.
Un plan de paix américain en Ukraine qui colle au narratif et aux prétentions russes. Rien de neuf, dites-vous. Eh bien, vous avez raison. Et ce bis repetita inquiète les Européens.
Et c'est juste après ça.
You wanna get swept in my BM, yes. Brunch in Soho with Michelin star chefs. Stepping out of place, smelling like success. Can't take a break from making dumb checks. I'ma spend my M's, pass through the ends. Tattoo on nature, saying it's IMZ. I know you wanna live your dreams, baby. Yo, from the hood, turn into a queen, baby. And we blessed, no stress to impress. In my armor, Margiela, the gold vest. London to Jamaica, Rome, my boonum. When you see the Rasta, you have to salute them. We ain't here for all that hateful stuff. It's funny how they always wanna hate to love. It's you I think of on my day to day. It's only you that got me thinking safe to say, huh?
Don't you get me right if I know. can never give this up, even if I try. I'm reserved for you, they can't have my time. I see heaven when I look at you in the eye. It's a blessing we alive. I'ma always honor what we be on when we decide. Being in your arms is the freest I've ever felt. I is him and he is I. Give your love, I give your love. It's adrenaline, are you feeling the rush? When you ain't here, babe, I've been needing your touch. As if your voice, it wasn't healing enough. Sometimes you gotta let go, baby. Understand when your house ain't a home, baby. Through the rain, we built up the courage. So now the harder they come, we rising above it.
Little Sims, Only, c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet. You don't have the cards.
World change. Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Louise Mekovo, donc ce nouveau plan de paix concocté par les Américains pour mettre fin à la guerre en Ukraine, on n'en est pas encore sûr. Et pourtant, vous nous expliquez pourquoi les Européens s'en inquiètent déjà.
Tel Sisyphe et son rocher, l'Ukraine et ses alliés vont-ils devoir tout recommencer? Une paix aux conditions maximalistes russes dictées en somme par le Kremlin, un plan concocté dans le dos de Kiev et des Européens. Grosse impression de déjà-vu. Rappelez-vous, la dernière fois, c'était au cœur de l'été. Le tapis rouge déroulé à Anchorage, en Alaska, sous les pieds de Vladimir Poutine. Donald Trump est comme marabouté, il semble prêt à tout céder. Trois jours plus tard, l'Europe lance une opération commando. Sept dirigeants européens s'en vont en pack serré soutenir à Washington le président ukrainien. Le résultat n'est pas une victoire, bien sûr, de revirement en volte-face. Donald Trump a depuis continué à souffler le chaud et le froid. Mais le pire, à savoir la reddition sans condition, a ce jour-là été évité.
Donc et là, on reprend tout à zéro, c'est ça? C'est un jour sans fin?
Eh bien, si l'on donne du crédit au plan de paix présenté ce soir par des responsables du Pentagone, Volodymyr Zelensky, la réponse est oui. Ce plan prévoit que l'Ukraine cède à la Russie des pans entiers de son territoire, pas tous occupés par Moscou d'ailleurs, et qu'elle réduise son armée de moitié. Inacceptable pour Kiev aujourd'hui comme hier, même avec un président Zelensky affaibli militairement et politiquement. Un scandale de corruption touche un de ses plus proches conseillers, fragilité dont le Kremlin espère visiblement profiter.
Mais alors Louise, ce plan de paix correspond effectivement à ce que veut Vladimir Poutine, mais est-ce qu'il a été validé par Donald Trump?
C'est tout le problème, on n'en est pas sûr. Et pour une fois, un message présidentiel assorti de plein de majuscules sur Truth Social serait le bienvenu. Il permettrait peut-être de clarifier d'où vient l'offre. Révélée par voie de presse, via le très informé site américain Axios, le plan a été concocté courant octobre à Washington par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et un certain Kirill Dmitriev, patron du fonds souverain russe, non pas un diplomate, racontait ce midi notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet, mais un homme capable de passer outre les circuits habituels. Il a l'oreille de Vladimir Poutine et a su convaincre Steve Witkoff que l'Ukraine était aux abois et proche de céder.
Alors ce plan de paix donc est peut-être un simple ballon d'essai, pourtant les Européens s'empressent de réagir.
Oui, depuis Bruxelles, où se réunissaient aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères des 27, chacun y est allé de sa déclaration pour expliquer que rien ne peut se faire sans les Ukrainiens et les Européens et que la paix ne peut pas être la capitulation. Des Européens rassurés pourtant le mois dernier par l'annonce de sanctions américaines contre le pétrole russe, source majeure de financement de la guerre en Ukraine. Ces sanctions entrent en vigueur demain. Alors assiste-t-on à un nouveau revirement? Donald Trump renoue-t-il avec sa complaisance vis-à-vis du président russe? En l'absence de réponse, autant donner de la voix. Une voix européenne qui résonne singulièrement dans le vide. Ni Washington ni Moscou n'ont officiellement réagi à la sortie dans la presse de ce plan de paix dont on ne sait trop ce soir que penser.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage. Le reportage d'Un jour dans le monde est au Sénégal ce soir, où il devient très à la mode d'avoir les lèvres gonflées, le postérieur bombé, les seins refaits, au point que la chirurgie esthétique séduit de plus en plus de femmes. Les modèles, on les trouve où? Ben sur les réseaux sociaux, bien sûr, et les bonnes adresses pas chères et super top sur TikTok, ou via des influenceuses qui font la publicité de cliniques low cost en Tunisie ou en Turquie. Sauf que derrière les promesses d'un corps de rêve, vous devinez évidemment ce qu'on trouve, des dérives dérives inquiétantes, des pratiques médicales à risque. Les cas de complications post-opératoires se multiplient et le reste, c'est Sophie Douce qui raconte.
Ah voilà, donc là, j'ai tout l'historique.
Aminata fait défiler les messages sur son téléphone. Il y a quelques mois, cette Sénégalaise de 46 ans qui préfère garder l'anonymat a contacté une clinique de chirurgie esthétique en Turquie.
Le processus est très très simple. C'est-à-dire que tu es sur Facebook, tu as un lien, tu cliques dessus, donc tu as très rapidement un agent marketing qui te prend en charge, qui commence même à faire le bilan pré-opératoire.
Complexée après ses 4 grossesses, cette publicitaire souhaite réaliser une liposuction. On lui demande simplement d'envoyer ses mensurations et des photos. La promesse d'un corps de rêve en quelques clics.
Ce qu'ils vous font miroiter, c'est la réussite, c'est-à-dire que vous venez en tout anonymat et vous êtes sûr de réussir l'opération à 100% avec des médecins qui sont hyper performants. Ils vous disent que la cicatrisation peut durer une semaine, que l'opération ne fait pas mal. Pour moi, ça, c'est du rêve.
Le montant, environ 5 000 euros pour un forfait de 5 jours, opération, hôtel et chauffeur compris.
Ils ont un groupe d'hôtels. Ils vous proposent, dès que vous venez à l'aéroport, le service pour vous amener à l'hôtel. L'hôtel aussi, ça fait partie du package. Dès qu'ils envoient le devis, il y a énormément de relances pour vous mettre un peu la pression pour que vous puissiez commencer le processus, payer et puis venir faire l'opération.
Aminata sent l'arnaque et préfère se tourner vers un chirurgien de confiance à Dakar. Mais au Sénégal, ses séjours tout compris attirent de plus en plus de femmes. Avec des opérations jusqu'à 2 fois moins chères qu'en Europe, la Turquie et la Tunisie sont devenues des destinations phares du tourisme médical.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis
sur TikTok, des influenceuses multiplient les vidéos sponsorisées par les cliniques.
L'Osa est tellement naturelle.
Donc j'étais avec l'agence Glam Travel, j'ai eu le temps de visiter le pays, qui d'ailleurs était beaucoup plus beau que ce que j'imaginais. Mais j'ai surtout
ça consiste à retirer la graisse du ventre, du dos, plus une abdominoplastie qui, elle, consiste à retirer l'excès de peau qu'il y aura après le retrait de graisse. Bref, je suis passée de ça à ça.
Selfie dans des chambres luxueuses ou à la piscine, photo avant-après, une publicité agressive et trompeuse, pourtant interdite par la médecine, qui inquiète les professionnels de santé.
C'est pas les mêmes photos.
Le docteur Lamine Diaye, spécialiste en chirurgie plastique et esthétique à Dakar.
Le plus souvent, c'est plus du marketing, l'hôtel 5 étoiles, la conciergerie, mais sur le plan médical, l'information en général ne passe pas. Même les influenceurs, c'est pas des personnes qui sont dans le domaine médical, c'est des agences parfois, qui leur ont proposé des forfaits pour se faire opérer à l'étranger, moyennant des rémunérations.
Dans son cabinet, il tente de soigner les patientes après une opération ratée, infection, hémorragie, douleurs chroniques. Les complications se multiplient faute de suivi post-opératoire.
Parce qu'il y a une patiente qui m'a montré une vidéo d'un saignement qu'elle a eu dans l'avion au moment de son retour. Elle-même, elle ne peut pas vous dire exactement ce qui a été fait comme intervention. Parce que le principal problème, c'est qu'elles viennent sans aucun document. Il n'y a pas de rapport médical. Après, là, il est très difficile de faire des suivis des choses qu'on ne connaît pas. Tu envoies des choses et tu te poses la question si réellement cette personne, c'est un chirurgien plasticien qui le fait.
Il y a quelques mois, la mort d'une mannequin à seulement 28 ans après une opération en Turquie a choqué au Sénégal. Face aux diktats du corps parfait sur les réseaux sociaux, les médecins s'inquiètent aussi des risques sur la santé mentale des jeunes femmes.
Sophie Douce pour le reportage, merci beaucoup. La suite, c'est Guillaume Audat qui place la tête sous les radars.
Sous les radars et dans les ruches, à l'affût des frelons tueurs qu'on s'arrache dans les restaurants chinois.
Et Stéphane Jourdain attaque la première.
Quand une IA lit l'heure sur un cadran, pourquoi pense-t-elle tout le temps qu'il est 10h10, quelle que soit l'heure?
Allez, à tout de suite tout le monde, nous revenons après Indazara. Nous sommes au Maroc avec ce beautiful tango. C'est à Djoubaka qui s'occupe de la programmation musicale de cette émission que nous devons ce joli morceau.
Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the show you things, 'cause
the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know.
Beautiful Tango d'Indy Zara sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Et qu'est-ce qu'on trouve sous les radars de l'actualité internationale ? Guillaume Audat.
MI5 have stated that this activity is being carried out.
Le renseignement britannique est sur les dents, Guillaume. Pékin espionne les parlementaires de la couronne grâce à de faux profils sur LinkedIn.
Celui de Shirley Chen, par exemple, chasseuse de tête basée à Hong Kong, profil avenant, tout sourire. Elle tient un beau matin à entrer en relation avec vous. Elle a repéré vos qualités, votre CV, et elle se demande si vous n'avez pas besoin d'un conseil ou d'accompagnement stratégique dans votre job de parlementaire au Royaume-Uni. Vous êtes séduit, vous répondez oui, et bim, vous voilà pris dans le filet d'une vaste entreprise de manipulation. L'idée étant de vous soutirer des informations sensibles. Évidemment, c'est le MI5 donc, qui sonne l'alerte et c'est le ministre de l'Intérieur qu'on a entendu et qui, en personne à Westminster, est venu prévenir les députés, leurs assistants, les hauts fonctionnaires, les experts. C'est aussi par LinkedIn, donc le réseau social pro, que la Chine cible désormais le cœur du pouvoir britannique. Nouvelle affaire d'espionnage entre les deux pays, on en a déjà parlé ici, mais Londres refuse toujours et encore de qualifier Pékin d'ennemi, car rompre aussi brutalement avec la deuxième puissance économique mondiale, aujourd'hui, c'est presque impensable.
This type of hornets is not possible to eat them when they are adults. The cook said we cannot eat those.
Et pendant ce temps, Guillaume, en Chine, justement, vous nous emmenez dans un petit village du sud, un petit restaurant où l'on cuisine du frelon tueur.
À savourer grillé, le frelon tueur, mais uniquement avant l'âge adulte, sans quoi vous finissez empoisonné, comme si vous aviez été piqué. Donc ça, évidemment, on ne recommande pas du tout. Très important de suivre les conseils fooding du jeune homme qu'on a entendu et qui a testé pour nous. Il paraît que ça a un goût de chips salé, le frelon tueur, avec une pointe de lait sous le craquant. C'est vrai, c'est
un aliment manger une chip, très prisé.
C'est un aliment très prisé, en tout cas, ce fameux frelon tueur, notamment dans le Sichuan, sauf qu'il est interdit. Il se vend presque sous le manteau, dans des bouteilles anonymes, sans contrôle sanitaire, à des prix extrêmement élevés. Notamment les espèces les plus agressives, on les appelle d'ailleurs les frelons tête de tigre, proposés en ligne comme des produits miracles censés vous guérir d'absolument toutes les maladies. C'est un commerce clandestin qui explose en Chine, mais qui pose de plus en plus de problèmes de sécurité, ça c'est une chose, et de biodiversité, car les victimes de ces méchants frelons, ce sont les gentilles abeilles, et sans les abeilles, c'est tout un équilibre qui s'effondre. J'ai quand même quelques frelons avec moi dans ma poche et on les goûtera après l'émission.
Pour vous d'abord. Direction l'Allemagne, Guillaume, où sommeille sous les eaux 1,6 million de tonnes de munitions abandonnées. La Deuxième Guerre mondiale, évidemment, est passée par là. On imagine dès lors des fonds marins ravagés.
C'est mot pour mot ce que ce plongeur nous dit. Il s'attendait à découvrir dans les eaux glaciales de la mer Baltique un désert toxique, un désastre environnemental causé il y a 80 ans par l'armada nazie, des mines, des ogives, des torpilles non explosées, bref, des déchets sous-marins prompts à éliminer à tout jamais toute vie aquatique. Eh bien non, quelle ne fut pas la surprise de cette équipe scientifique allemande qui vient de publier le résultat de ses investigations. Ce ne sont pas des dizaines, ni des centaines, mais des centaines de milliers d'étoiles de mer, de crabes, d'anémones, de moules et de diverses espèces de poissons qui se sont emparés de ce décorum assez extraordinaire pour y bâtir un écosystème unique en son genre. La grande ironie, c'est que ces bombes, elles auraient dû servir à tuer, et là, elles ont engendré la vie, écrivent les scientifiques dans leur rapport Morale de l'Histoire. Même sous la mer, faites l'amour, pas la guerre.
Ah ben bravo, vous êtes bien touche à bada aujourd'hui, Guillaume Audat, merci beaucoup. Allez, l'IA va nous dépasser, mais on essaie de se soigner, c'est la tech la première.
France Inter, le 18-20.
Stéphane Jourdain, je suis sûr que vous l'avez fait pour moi, parce que voilà une chronique qui va rassurer les plus inquiets, dont moi. Les IA ne sont pas encore prêtes à prendre le pouvoir. En tout cas, elles ne sont pas capables de lire l'heure sur le cadran d'une montre.
Et oui, si vous savez lire l'heure sur un bon vieux cadran, avec des aiguilles, vous êtes meilleur que ChatGPT. C'est la conclusion d'une étude très sérieuse menée en Espagne. Les chercheurs ont soumis des milliers d'images d'horloges analogiques à 4 modèles d'intelligence artificielle. Résultat, ces IA sont incapables de lire la bonne heure. Et quelle que soit l'heure, elle répond même souvent qu'il est 10h10.
Mais alors pourquoi 10h10?
Parce que dans beaucoup de publicités en ligne, les montres sont réglées sur 10h10. C'est plus joli, c'est plus design. Ces IA ont digéré toutes ces images et donc pour elles sont un peu bêtes. Il est toujours 10h10. Pour régler ce problème, les chercheurs ont décidé de fine-tuner ces IA, comme on dit en bon français, c'est-à-dire qu'ils les ont ajustées en leur faisant digérer 5000 images d'une même horloge avec plein d'heures différentes, avec à chaque fois l'heure indiquée sur l'image.
Et résultat ?
Eureka, les IA ont été bien meilleures pour lire l'heure parce qu'elles avaient digéré des séries statistiques comparables. Sauf que, gros plot twist, quand on leur a montré de nouvelles images avec de nouvelles horloges que ces IA ne connaissaient pas, bim, à nouveau,
10h10.
Incapable de lire l'heure. En fait, dès que les aiguilles de l'horloge changent un peu d'apparence, l'IA est perdue.
Donc, conclusion des chercheurs.
Ces IA n'apprennent pas comme des humains. Javier Condé, chercheur à Madrid.
Ce qu'on a compris, c'est que ces modèles apprennent davantage en digérant des séries de données qu'en essayant d'appréhender des concepts en soi. C'est un peu différent de la façon dont nous apprenons, nous les humains.
On a demandé aux chercheurs pourquoi c'était si important de connaître cette limite intrinsèque des IA.
On va bientôt mettre des robots dans des situations auxquelles ils ne sont pas habitués. Ils vont quitter nos ordinateurs pour s'installer dans le monde physique. Maintenant, imaginons une seconde que votre robot soit chez vous en train de cuire quelque chose et que chez vous, il n'y a que des horloges analogiques. Pour lui, il sera toujours la même heure. Eh bien, ce sera un problème.
Et alors, puisqu'on y est, n'y aurait-il pas d'autres tâches très simples que ces IA très poussées ne savent pas réaliser ?
Ça, nous sommes maintenant persuadés que c'est le cas. Par exemple, si je demande combien de fois il y a la lettre O dans le mot coquelicot, eh bien les modèles sont incapables de répondre.
Incapables, car ces IA ne raisonnent pas à partir de lettres, mais à partir de tokens, des groupes de lettres.
Donc vraiment, les IA ne peuvent pas dire combien de fois il y a de O dans coquelicot.
On a testé. Bonjour ChatGPT. Est-ce que tu peux me dire combien il y a de lettres O dans le mot coquelicot ?
Bien sûr, dans le mot coquelicot, il y a 2 lettres O. C'est un mot plutôt joli d'ailleurs.
Et combien il y a de lettres I ?
Dans le mot coquelicot, il y a une seule lettre I. C'est un mot qui a pas mal de voyelles, mais pas tant que ça.
Caramba, c'est raté. ChatGPT avance plus vite que notre chercheur du jour. Et du coup, nous avons été pris d'un immense vertige. Souvenez-vous, Fabienne, il y a tout juste 2 ans, dans ce même studio, on posait cette question à ChatGPT en hommage à Georges Perec. Bonjour ChatGPT, est-ce que tu pourrais me faire une phrase qui ne contient pas la lettre E ?
Bien sûr. Voici une phrase, un jour brillant, un ciel sans nuages.
Ciel, nuage. Il y a 2 ans, ChatGPT n'y arrivait pas. Et aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu peux me faire une phrase sans la lettre E ?
Avec plaisir. Par exemple, un joli chat noir dort sur un taquido. Voilà, sans E.
Je ne sais pas ce qu'est un taquido, mais il n'y a pas de E. Test réussi. L'histoire de l'IA, Fabienne, s'écrit sous nos yeux. Quelle émotion. Sauf si, faisons quand même un nouvel essai. Est-ce que tu peux me faire une autre phrase sans E ?
Bien sûr. Par exemple, un panda danse sous la pluie joyeuse. Celle-ci aussi ne contient pas de E.
Si, danse, c'est un E.
Ah, tu as tout à fait raison. J'ai fait une petite erreur. Merci de l'avoir signalé. Je vais faire plus attention.
Ouf, l'honneur est sauf.
Mais arrêtez de lui dire bonjour, moi ça me rend dingue. Bon alors, ces IA sont quand même un peu limitées. Ah mais vraiment, je l'insulte tout le temps. Et elles n'apprennent pas très vite.
Oui, elles sont capables de passer le barreau de New York haut la main, les examens de médecine les plus compliqués, mais elles ne savent pas lire l'heure sur un cadran ou faire une phrase sans E. Pourquoi ? David Chavalarias, chercheur au CNRS.
On parle là ici d'un certain type d'IA qui est capable d'apprendre à partir d'exemples et de généraliser. Et donc, elles vont être très bonnes lorsque les exemples sont nombreux. Typiquement, le barreau de Paris a énormément de textes juridiques. En médecine, énormément de manuels et d'articles médicaux. Et donc, dans tous ces cas-là, l'intelligence artificielle va arriver à généraliser. En revanche, lorsque les exemples sont rares, comme un livre sans lettre E ou des types d'horloges particulières, eh bien, elle sera incapable de généraliser. Fondamentalement, ce sont pas des machines qui créent du sens et après essayent de l'utiliser pour interpréter le monde. Elles ne font que extrapoler.
Mais moi, j'avais compris que les IA apprenaient toutes seules.
Depuis des années, on vous parle d'apprentissage profond et autonome. Est-ce qu'on nous aurait menti ?
Je dirais pas que c'est un mensonge, mais plutôt un malentendu. C'est-à-dire que faut bien voir que c'est des progrès scientifiques majeurs, hein, ces IA qui arrivent à généraliser à partir de bases d'exemples. En revanche, elles n'apprennent pas au sens où nous apprenons. Nous, quand nous apprenons, nous créons du sens. Et ensuite, nous pouvons généraliser sur des nouvelles situations en fonction de ce qui nous est utile. Les machines n'ont pas de notion d'utilité, elles ne construisent pas du sens, et donc elles ne comprennent pas le monde comme nous le comprenons.
Ce test de l'horloge donne en tout cas raison à Yann Lequin, l'un des pères du deep learning qui vient de quitter Meta et pointe régulièrement les limites de ces IA génératives. Elles sont plus bêtes qu'un chat, dit-il souvent.
Eh ben voilà, il a raison. Il est 10h10. Ah, j'ai été hacké par une IA. Stéphane Jourdan, merci. À la semaine prochaine.